19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver, chers amis. Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Oui, il y a action, action, action. Résultat, résultat, résultat. Déclaration de qui ? Du Premier ministre. Wow. Commentaire, oui,
sur TF1 hier.
Voilà ses déclarations. Voilà, effectivement, il veut de l'action, paraît-il. Alors, au sommaire pour clore la semaine, des informés des quartiers, on nous parlerons du remaniement avec particulièrement, vous savez quoi, tout simplement cette composition de ce nouveau gouvernement Attal. Nous nous attarderons aussi, vous savez, sur cette grande surprise. On parle de Rachida Dati. Rachida Dati qui dit « Je vais continuer à me battre ». Qu'entend-elle par, évidemment, cette phrase et puis ce commentaire ? Nous reviendrons aussi avec ce Conseil constitutionnel. Nous parlerons, évidemment, bien sûr, de la loi immigration. Pourquoi Laurent Fabius reproche à l'exécutif de politiser le Conseil constitutionnel ? C'est vrai qu'on a envie de comprendre. Et puis nous irons commenter, mais surtout... analyser ces accusations de génocide à Gaza devant la justice internationale. Alors Israël, elle, de son côté, vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, dénonce une démonstration hypocrisie. Et bien on en parlera ici même dans les informés. 01 53 48 3000 ce vendredi, et bien les informés des quartiers vous donnent la parole. Jusqu'à 20h, vous nous appelez, vous êtes prioritaire, et bien sûr... Nous sommes aujourd'hui bien accompagnés dans ce face-à-face avec du beau monde. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face avec le retour d'Emmanuel Dupuis. Bonsoir, Emmanuel Dupuis, bonne année.
Le retour, mais non, il n'a jamais quitté.
Le retour pour
quitté.
Cette première année.
Ah oui, c'est vrai. Voilà, ravi d'être là.
Bonne année.
Bonne année aux tout auditrices et aux auditeurs.
Président de l'IPSE, plus que jamais.
Ou toujours, toujours,
toujours, toujours,
ouais.
Toujours, toujours.
Voilà. C'est on ne change pas une équipe qui gagne.
On ne change pas une équipe.
Faudrait
qui
le
gagne.
Dire, Monsieur le Président de la République.
On va en parler justement.
L'équipe a-t-elle gagné ?
Je sais pas. Oui, voilà. Je sais pas si elle a gagné l'équipe.
Ça commence. Vous avez vu comment ça commence là ?
On commence justement dans la polémique.
Ouais, c'est ça. Je vois ça.
Il y a de quoi.
Merwan Mehoubi, je vous ai eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année.
Par message, mais meilleurs vœux et meilleurs vœux aux auditeurs. Exactement, meilleurs vœux à tout le monde, aux éditeurs également.
Journaliste, il va nous dire ce qu'il en pense justement, notre journaliste de gauche.
Non. Je suis gilet jaune. Ni à droite ni à gauche. Je suis français, a dit.
J'adore. J'aime bien taquiner moi. Maître David Libeski, comment ça va, maître ?
Ça va.
Vendredi, je sais que vous êtes au calme. Hein.
Ah moi vendredi.
Quand vous changez jamais de place là, vous êtes toujours la même place. Vous changez jamais.
Il y a mon nom derrière le.
Il y a quoi ? Il y a votre nom, ouais, j'ai vu.
Et comme au cinéma.
Jamais il change de place. Il est toujours, vous savez, je vous jure,
il
depuis
est finalement assez conservateur.
Il est conservateur, c'est un conservateur, hein, je vous jure. Ouais,
il est
conservateur.
Il est assis à ta droite.
Ouais, il est assis à ma droite. Conservateur de droite.
Loin de là, s'il te plaît, pas d'injure.
Un élu, ouais, pas d'injure. Un élu des Arpajons, de Saint-Germain-les-Arpajons. Redi Kazi, ça va ?
Très bien, et vous ?
Toujours cravate, hein.
Ouais, de temps en temps.
Costume, cravate.
C'est bien d'être bien habillé.
Ouais, c'est bien, vous avez raison.
Distingué.
Ouais, c'est vrai. Après, bien habillé, ça veut pas dire aussi cravate, hein.
Ouais. Ce qui préjuge
col
pas
roulé,
aussi
regardez,
de...
Col roulé veste, là, regardez. Ça veut dire aussi bien habillé.
Les directives du gouvernement.
Vous avez un financier à côté, il est toujours en costume. Vous êtes venu à la cool aujourd'hui, l'actrice.
Non, lui, il a deux visages. Il a deux visages.
Il a deux visages, vous avez vu, c'est vrai. Hein. C'est le visage gauche et le visage droite.
C'est le visage en même temps.
Ouais. En même temps.
Bah,
vous venez du golf ? Quel golf ?
Non, je ne ferai pas de publicité, si c'est interdit.
Karim, ça va, Karim Alouache ?
Très bien.
Surtout en ce moment.
Karim Alouache est dans la finance, un banquier d'affaires, mais en même temps, il est. Vous avez raison, il joue dans le même temps. Et en même temps, il est acteur local, acteur politique local. Hein.
Ouais. C'est la gauche caviar.
Bientôt.
La gauche caviar. C'est la gauche caviar. Vous avez entendu ce qu'il vous a dit ?
Alors, attends, mais pourquoi elle dit gauche ?
La gauche caviar.
Non, mais j'aimerais bien savoir pourquoi elle dit gauche.
Non, je ne sais pas.
Bah, trop gauche.
Vous êtes Strauss-Kahnien.
Pour la même raison que Adi vous a dit, vous êtes journaliste de gauche.
Exactement, exactement.
C'est ça.
C'est le faciès, alors attention. Hein.
Strauss-Kahn. Non, mais Strauss-Kahn, c'est vrai. Business.
Oui, pourquoi pas.
Ah, la monnaie, monnaie.
Peut-être que.
Et en même temps, il a une sensibilité de gauche. J'espère, je souhaite. Je souhaite.
Le jour.
Je l'ai croisé dans un resto.
Le jour où il y a un cabinet ministériel de gauche qui m'offre le même salaire que ce que j'ai,
ouais,
j'irai travailler dans son cabinet.
Ça n'existe pas.
Si, à la gauche caviar, ça existe.
Attendez, il vous pose une question, il veut connaître votre salaire.
Bah oui.
Allez, faites-lui peur.
Non, mais c'est un tabou.
Suffisamment
en France,
pour faire vivre une grande famille.
Ah, c'est quoi une grande famille ?
C'est une dizaine de personnes.
En école privée ?
Bah, tant qu'à faire.
Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon.
Tendance gouvernementale.
Ah, il doit toucher, allez, 50 000 euros par mois.
Non. Non, c'est non.
Non, je sais que non, c'est pas ça.
Ne spécule pas moins. Sur les salaires.
Beaucoup moins.
Il touchera jamais 100 qu'avec lui.
Bah après, il doit toucher une rémunération variable. Ouais, il y a un fixe et un variable.
C'est ça. C'est ça.
Des bonus.
Mais je pense pas qu'il arrive à 50 000 euros par mois.
Non, j'exagère.
C'est beaucoup. Hein.
Non, c'est beaucoup trop. 50 000 euros, c'est un. Ouais.
La haute autorité. La haute autorité nucléaire. Hein, n'est-ce pas, Emmanuel, la haute autorité nucléaire, là, je crois qu'ils ont des gros salaires.
Le plus
là-bas.
Gros salaire en France, ouais. C'est ce qu'on appelle les trésoriers payeurs généraux.
Ouais, qui touchent combien? 20 000 euros.
Ceux qui sont détenteurs du trésor public.
Dans le public, tu parles.
Dans tous les pays, c'est comme ça.
Un DPG touche beaucoup plus qu'un président de la République.
C'est pour.
Il parle de 110 000 euros.
En général, c'est pour le protéger. C'est pour protéger son indépendance.
Il parle de 110 000 euros. Attendez, chacun son drôle. 110 000 euros, vous dites?
Bien sûr.
Maître David Libeski, vous êtes, c'est sérieux là ce qu'il
mais
dit
où vont nos impôts?
Je sais pas, ça me paraît beaucoup.
Il est bien renseigné, hein. Mais
les fonds,
ça
la
me paraît
fonction,
beaucoup, hein.
La fonction.
C'est ceux qui protègent en fait le trésor.
C'est celui qui contrôle. Et c'est le contrôle.
C'est pour éviter la corruption.
Mais oui, justement.
C'est pour garantir son indépendance. Et dans les pays dans lesquels où vous avez des pétrodollars, ils sont issus de la
corruption. Attendez, vous parlez tous en même temps, on comprend rien, vous savez. Qu'est-ce que vous dites, Emmanuel Dupuis?
Ce sont des hauts fonctionnaires qui sont issus de la Cour des comptes. La raison du caractère exponentiel, astronomique, c'est pour éviter qu'ils soient corrompus. Pourquoi est-ce que les sénateurs américains sont richissimes? Pour qu'ils ne soient pas corrompus par les lobbyistes.
Je pense que même avec ça, à mon avis, ça n'empêche pas la corruption.
L'esprit de la loi américaine est inscrit comme ça. Ils sont très richement payants pour ne pas être corrompus.
Je te mets sur la table 900 000 euros ou 1 million, tu
vois. Mais ça reste beaucoup plus.
Ou l'industrie pharmaceutique.
Pour un sénateur américain, c'est beaucoup plus que ça.
Mais ça reste qu'un dixième d'un dirigeant d'une grande entreprise du CAC 40.
Ouais. Allez messieurs, nous allons démarrer après avoir parlé fric. On en parle, on fera une émission spéciale là-dessus. On va parler, vous savez quoi, de ce remaniement, justement un tour de table, messieurs, où je voudrais vraiment qu'on parle de tout cela. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau visage du gouvernement Attal avec un Premier ministre dynamique qui est déjà dans l'action? Il a été à Andrézy, il a été rencontré des élèves du collège, il a échangé avec eux, il a fait un selfie avec eux, il a pris un mégaphone avec eux, enfin bah, bref, il a parlé dans le mégaphone, pardon. Et puis tous ces poids lourds. Et puis aussi la grande surprise, Rachida Dati. Alors Emmanuel Dupuis, que peut-on dire avec tout ça? Ça présage quoi?
Alors on a déjà un Premier ministre TikTok.
Ouais.
Hein, puisqu'il se vante de parler en utilisant les réseaux sociaux plus jeunes et les plus modernes.
On va mal
moderne.
Le dire, hein.
Non, un Premier ministre, c'est pas un communicant. Un Premier ministre,
TikTok est interdit aux États-Unis.
Obama, président, le faisait.
Ouais.
Non mais, attendez. Vous faites deux choses. Le Premier ministre, de toute façon, est, entre guillemets, le collaborateur du président de la République. L'esprit de la Constitution de 1956 est un petit peu remis en cause.
Arrêtez d'être vieille école, mon cher. Faut s'adapter, non? Le Premier ministre, il s'adapte.
Mais justement, c'est tout le fond du problème. Si la communication et si le spectacle emporte sur le fond... Bah moi, ça me gêne.
Ah oui.
Vous pouvez penser que je suis vieille.
Il a 34 ans, c'est peut-être normal qu'il
ait. Je suis la vieille école.
Bah oui. Pourquoi l'avoir choisi?
L'âge du capitaine ne fait pas grand-chose. Il y a des jeunes qui peuvent être brillants et puis il y a des jeunes qui peuvent être assez conservateurs. Moi, j'ai rien à reprocher à M. Attal. Ce que je peux reprocher, c'est le président qui a choisi quelqu'un qui n'est que son collaborateur. En fait, qu'avons-nous? On a un porte-parole de la présidence, car le vrai pouvoir, et on l'a vu, c'est le secrétaire général de la présidence. Il ne vous aura pas échappé que le directeur du cabinet, M. Moulin, du Premier ministre, n'a pas été choisi par le Premier ministre, il a été imposé par le président. Il ne vous aura pas échappé.
Ancien directeur du Trésor.
Ancien inspecteur général du Trésor, directeur général de,
donc de
la comptabilité.
Il n'est pas ancien directeur du cabinet
Emmanuel.
De Le Maire.
Emmanuel Moulin.
C'est pas grave, allez-y.
Peu importe le prénom, il ne vous aura pas échappé que... On a imposé à M. Attal un certain nombre de ministres dont il ne voulait pas entendre parler. Mme Dati a été imposée au dernier moment.
Par qui? Par Sarkozy?
Par Macron.
Par le président de la République, déjà.
Sarko-connexion.
Monsieur Emmanuel Macron reste jusqu'à présent président de la République, même s'il était influencé par l'extérieur. Ou par son épouse, peu importe. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a un président qui fait beaucoup de pipolisation de la politique, et c'est une mauvaise chose. J'attends de voir ses résultats. J'attends de voir son discours de politique générale.
Mais où vous voyez du people là?
Excusez-moi, quand on prend un mégaphone et quand on se pavane sur les réseaux sociaux, quand on n'a rien prouvé.
Il y a des centaines de collégiens devant lui, vous voulez qu'ils fassent quoi? Comment vous voulez qu'ils leur parlent?
Il faut dire qu'il y a une graduation. Hier c'était plus feutré, là on est dans les mégaphones, il y a une graduation.
Bon, alors, je quand même. Je peux avoir mon point de vue.
Oui, bien sûr, j'essaie vous pouvez. Vous avez raison, on va en débattre.
Non, mais c'est pas une question de débat, c'est une question... De toute façon, il n'y a pas de débat. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de débat et que ce soit imposé par le haut. Car s'il y avait eu un débat, il y aurait eu un remaniement ministériel qui aurait été la préfiguration d'un vote qui aurait permis aux citoyens de s'exprimer.
On va prendre le temps d'en parler.
Dernier point. Dernier point.
Non, mais on est là durant une heure, hein, donc on va en parler.
Tout est communication, maintenant. La preuve, le président de la République a autorisé les caméras, comme il le fait à chaque fois pour un conseil des ministres, qui a été finalement mis en scène pour la première fois dans notre République. Ce n'est pas...
À huis clos.
À huis clos, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas la table traditionnelle qui accueille l'ensemble du cabinet ministériel, mais une petite salle, une petite table pour montrer cette proximité.
C'est vrai.
Tout est artificiel. Donc encore une fois, moi je suis un vieux routier de la politique, j'attends de voir ce qu'il va proposer.
Je l'ai visité l'Élysée, effectivement, ça ressemble.
Si je peux me permettre de finir, Rudy, si j'attends non, le discours de politique générale. C'est Karim. Comme ça qu'on verra
Karim
ce qu'il a dans le fond.
Alors, Karim Alouache.
Moi, il y a plusieurs choses et on est dans la continuité de la destruction des valeurs, des institutions, de tout ce qui est fait entre Macron et
j'aurais
et
dû
le peuple.
Inviter un macroniste ce soir.
Et moi, je trouve ça terrible. Il y a une chose, d'abord, il a été... On n'est pas étonné de sa nomination. De toute façon, ce n'est pas lui qui va exercer, en fait, la réelle
fonction.
Pourquoi
vous dites que ce n'est pas lui, Karim Alouache et
Monsieur Adil,
Attendons de voir.
Si vous me coupez, je ne pourrais pas vous dire pourquoi.
Ben oui.
On est d'accord. Donc je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? C'est parce que c'est pas lui qui a choisi un grand nombre de ministres. Quand vous avez vu que Darmanin, le ministre de la Justice, on dealait directement, Mais c'est le problème de pipoliser le choix des ministres et le gouvernement, c'est qu'on sait tout, on sait comment ça s'est passé. Ça c'est la première chose. Moi il m'impressionne pas. D'abord il a rien fait, il a rien produit dans sa vie. Et moi, je suis toujours étonné qu'on mette à la tête d'un pays un mec qui a jamais piloté un paquebot ou un avion, ça, ou qui n'a même pas un chouïa d'expérience. Il est jeune, mais on s'en fout. D'ailleurs, vous avez vu, 65% des moins de 35 ans ne lui font pas confiance. 65% des moins de 35 ans. Il n'a jamais rien fait, il a toujours vécu dans les cabinets, sorti de l'école, il a vécu au crochet, comme Mélenchon, entre guillemets, au crochet de la société, de nos impôts et des partis politiques.
Bah, il était prof d'histoire.
La deuxième chose, pour moi, c'est un tort. Va produire d'abord dans la société avant de pouvoir nous dire ce qu'on a à faire. La deuxième chose, c'est que. C'est votre opinion, c'est mon opinion. La deuxième chose, un gouvernement très répressif. Un gouvernement très très restreint. Il y a un modèle dans le monde.
Mais il n'est pas fini le gouvernement aussi.
Non. Il y a un modèle. On parle des ministres. Les secrétaires d'État, oublie. On parle vraiment des ministres. Il y a un gouvernement dans ce monde-là qui fait la même chose et qui est peu recommandable. Vous savez lequel ? C'est le gouvernement argentin. Et si vous vous rappelez, en décembre, le 10 décembre, lors de l'élection du président argentin, Macron avait souligné ce qu'il a fait. Regardez l'état de l'Argentine et regardez ce qui est en train de se passer en Argentine. On est à deux doigts de la révolution là-bas. Ou de la guerre civile, et ça va mal se terminer.
Vous voulez dire quoi, par là,
c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Très peu de ministres, ça veut dire que qui reste aux manettes, en réalité, c'est Macron et ses trois cadors ministres, avec qui il va gérer, et le reste. Le dernier cas, c'est mon opinion, et vous avez votre opinion. C'est ma lecture. La troisième chose, vous parlez du cas de Rachida Dati.
Attendez, on va en parler après.
Ah, d'accord.
Je veux pas qu'on mélange tout, parce que sinon...
Mais honnêtement, ça impressionne pas les gens que tu prennes un mégaphone, et surtout, ne comparez pas Attal à Obama.
Karim, je vous ai connu un petit peu moins dur avec le gouvernement macronien... Il y a une certaine époque. Enfin.
Non, Rudy, il n'a pas l'air. Non. Rudy, il n'a pas l'air d'être au courant, donc je vais lui rappeler quand même l'histoire.
Il a loupé le chapitre.
Je pensais qu'il suivait bien l'actualité politique. Je vais te rappeler un truc, Rudy.
L'actualité politique, c'est tout ce que Karim Alouache fait.
Non, mais il faut le rappeler parce qu'il a un propos qui peut tromper les auditeurs. Moi, j'ai été un des premiers supporters de Macron en 2016. J'ai fait ses campagnes, j'ai assisté, etc. J'ai cru à son discours de Bobigny en disant qu'il allait mettre fin à l'ancien monde, fini la politique des copains. Et comme j'ai écrit dernièrement, il n'a pas mis fin à l'ancien monde, mais il a détruit le nouveau monde. Donc c'est même pire. En 2021, Adil, avec quelques-uns, on a pris, entre guillemets, nos responsabilités et on a dénoncé les pratiques de La République En Marche. Dans une tribune dans l'opinion, et on s'est fait On est deux, on s'est fait virer de la République en marche et j'en suis extrêmement fier.
Donc c'est fini en fait, la République en marche.
Okay. Ah, c'est fini, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Les informés des quartiers, oui, avec Emmanuel Dupuis, avec Merwan Mohib, avec Maître David Libeskid, Mehoubi, pardon, excuse-moi, d'avoir écorché le nom, avec Rudy Kazi et enfin avec Karim Alouache. Tiens, on va donner la parole à ceux qu'on n'a pas entendus. Rudy Kazi, ensuite après, Maître David Libeskid, concernant toujours ce remaniement.
Bah, c'est pas un remaniement, sincèrement. En fait, c'est un jeu de chaises musicales. D'ailleurs, en fait, on a conservé les mêmes et on a installé des nouvelles têtes pour donner l'impression qu'effectivement, on fait quelque chose de nouveau. Oui, mais c'est pour moi c'est un remaniement qui a plutôt en fait un des attraits plutôt cosmétiques. Moi ce que je constate de toute façon c'est que plus on avance, plus on recule en fait, parce que je trouve en fait que la compétence de certains ministres, alors après sur du Bruno Le Maire, sur du Darmanin, il y a de la continuité. Après qu'on soit d'accord ou pas sur leur bilan, il y a un bilan qui est là, qui est concret, etc. Mais je trouve que le choix de certains ministres en fait ne convient absolument pas déjà à la ligne que Emmanuel Macron veut incarner. On va parler tout à l'heure de Rachida Dati, mais on parle de beaucoup de ministres de droite soi-disant qui sont entrés. Mais je vois pas à quoi ça va servir en fait au gouvernement. Bien entendu, on sait qu'il y a,
droitise davantage ce gouvernement.
Pourquoi ? Parce que il y a une majorité relative donc à l'Assemblée, ça on le sait. Et je crois pas en tout cas par rapport à la majorité relative que ce soit un calcul intelligent de débaucher des gens de droite, parce que c'est pas en fait si vous voulez un recrutement qui s'est fait dans une entente avec les Républicains. Au contraire, ça va durcir les relations au niveau du Parlement en particulier à l'Assemblée nationale, sachant qu'en plus le Sénat est à droite, et avec les projets de loi à venir, fin de vie, etc., ils vont à nouveau saisir l'opportunité de casser les propositions de loi qui vont émaner du gouvernement. Donc pour moi, c'est un très mauvais calcul. Ensuite, par rapport à Attal, Gabriel Attal, le Premier ministre, ouais, pour moi, en fait, c'est pas forcément un bon choix.
C'est pas un problème.
Alors après, si on se place du point de vue d'Emmanuel Macron, c'est un bon choix parce que on faisait un peu référence à de la science constitutionnaliste tout à l'heure. Oui, on dit que le Premier ministre c'est le fusible en fait sous la Ve République. Elisabeth Borne l'a été, et je vois pas en quoi Gabriel Attal, qui est présenté comme hyper talentueux, ne le sera pas. Il va être talentueux pour bien parler parce que c'est quelqu'un qui sait bien parler à la télé, malgré que je trouve qu'on lui prête en fait des qualité extraordinaire, un petit peu comme on en prêtait à Emmanuel Macron, comme d'être hyper intelligent, etc. Enfin, je veux dire, il a le QI, en fait, de la majorité des Français, sauf que c'est quelqu'un qui a bien bossé à l'école, enfin voilà, contrairement peut-être à certains. Mais moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on veut toujours storyteller les compétences, alors que, à la base, quand même, d'être président de la République, on regarde pas le CV. Je veux dire, n'importe qui peut se présenter en principe. Ce qui doit faire la différence, c'est pas en fait ce qu'il y a sur votre CV, c'est votre capacité en fait à transcender votre amour de la nation pour faire ce qui est juste en fait. C'est ça qui doit faire la différence.
Maître David
Libeskid, ce gouvernement, il m'emballe pas.
Voilà. Bon, ça vous l'avez compris, vous êtes là.
Donc je rentrerai pas au gouvernement.
Voilà. Ah non, mais moi je suis de droite, donc je resterai de droite.
Il y en a d'autres aussi, hein. Alors, Bruno Le Maire, Rachida
Dati.
Alors plusieurs observations.
Je connais beaucoup de gens qui sont dans le gouvernement, enfin ou en tout cas dans la majorité. On m'a souvent prêté d'être dans la majorité. C'est absolument pas le cas. Je tiens
à préciser. Okay. Alors Maître David Libeskid.
Merci. Donc plusieurs observations. Alors première observation concernant Gabriel Attal. Ouais, je trouve un petit peu jeune, 34 ans, et surtout il manque d'expérience de vie. Voilà, c'est ce qui peut poser problème, et pour pouvoir évaluer au plus juste les besoins de la nation et les dossiers. Je pense que l'expérience de vie, c'est important, quelles que soient les fonctions qu'on a occupées précédemment, parce qu'Emmanuel Macron, quoi qu'on dise, il avait une petite expérience de vie, il avait travaillé dans le secteur privé, etc.
Bon réseau.
Deuxièmement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, en fait, camarade.
Rudy Kazi.
Voilà, Rudy. Il y a 8 ministres sur 15 qui sont à droite, hein, d'accord. Donc, en fin de compte, l'option qui a été choisie, en fait, c'est de séduire, de convaincre la LR, parce que, bon, on a vu que pour le projet de loi immigration, puis pour d'autres projets de loi antérieurs, c'était un peu compliqué, les relations avec LR. Et je pense que... alors, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais je pense, oui, c'est un gouvernement, en fait, très très à droite. Et dernier point...
Ça ne marchera pas.
Si, bon, on verra.
Déjà, on sait pas. S'ils se coupent de leur aile gauche, hein, faut aussi le préciser.
Non, mais on verra.
En faisant rentrer autant de gens à droite, regardez le comportement des Beaunes, etc., qui ont quitté.
La France est un pays à droite. Voilà, il faut l'accepter. En tout cas, si tu es Emmanuel Macron.
Mais là, on parle de gouvernement. En termes de gouvernance, même en faisant rentrer des gens de droite, la gouvernance du pays se base sur la majorité que tu as à l'Assemblée nationale.
Et dernier élément. Une dernière observation concernant ce qu'a dit Emmanuel, que le Premier ministre était un collaborateur du président de la République. Hein, c'est un petit peu Sarkozy qui avait lancé ça concernant François Fillon. Alors, en fait, il y a une déformation de la pratique de la Ve République, parce que l'article 20, me semble-t-il, qui existe toujours, c'est le Premier ministre qui détermine les conduites de la politique de la nation. Et en principe, le président de la République a un domaine qui est réservé, c'est la défense et les affaires étrangères. La seule difficulté, c'est que qui nomme le Premier ministre, c'est le président de la République. Donc, effectivement, on arrive à un stade où, en fin de compte, c'est le président de la République qui, en fait, donne ses instructions au Premier ministre pour conduire la politique de la nation.
Ah oui, bah encore.
Oui, bah, prochaine étape,
prochaine
étape, je propose que Emmanuel Macron se nomme lui-même Premier ministre et puis ministre de tous les autres ministères et qu'il nomme, Brigitte Macron.
Ce qui n'est pas constitutionnel.
Oui, pas du tout constitutionnel. Non, c'est un grand n'importe quoi. Et Gabriel Attal, ça se résume malheureusement au fait que il vient de l'école alsacienne, qu'il a le parcours absolument standard, qu'il a 34 ans, aucune expérience, qui, à mon avis, il sait très bien qu'il n'est pas tout à fait Premier ministre, que c'est Emmanuel Macron qui gère depuis toujours, finalement. Donc, non, c'est. Alors, on touche le fond, on continue de creuser et où est-ce que ça va aller Petit bon point, c'est Rachida Dati qui revient sur le devant de la scène et peut-être positionne en figure de droite.
Pour le sujet, je crois que la personnalité ou le talent ou la fulgurance intellectuelle n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'ils vont incarner. Or, le problème, c'est que Gabriel Attal ne me semble pas,
il y a pas de vision,
pouvoir incarner un changement, une rupture. Habituellement, en remaniement, mais non, on va choisir. Non, mais justement.
Au contraire.
C'est ce que je dis.
C'est Macron, petit frère.
Il incarne rien
c'est
du tout.
Ce que je dis. Je dis que ce n'est pas un remaniement.
Donc c'est la continuité.
C'est une continuation.
Oui, d'accord.
C'est pas parce qu'il y a de nouveaux entrants que ça va changer la politique. Or, jusqu'à présent, un remaniement servait.
Mais là, on n'est pas dans une continuation, là, cher.
Et en quoi, bien sûr qu'on est dans une continuation.
Ben non.
Non, mais Rudy a raison. C'est le jeu des chaises musicales. On prend les
changements de personnalité ne change pas la politique.
On verra la politique générale.
Juste une seconde. Les ministres ont été nommés sur une feuille de route définie par le président et le premier ministre. Or, cette feuille de route n'a pas changé, Rudy l'a très bien dit, puisque pas une seule voix de plus ne va constituer une majorité qui est, il reste relative. C'est pas parce que vous, et je termine, parce que ça c'est quelque chose que les auditeurs peuvent bien comprendre. Et je crois que là il y a vraiment un changement générationnel. C'est pas parce que vous avez quelqu'un de droite que toute la droite va voter pour cette personne de droite. C'est pas parce que Rachida Dati est ex-président du Conseil national des Républicains que tous les Républicains d'un seul coup ont basculé chez Macron. C'est fini parce ça.
L'ont viré,
ça
fonctionne hein,
plus. En plus, elle a été virée. Une heure après son entrée dans le gouvernement.
Et pardonne-moi, Emmanuel. Vraiment deux secondes, pardonne-moi, mais il y a aussi l'élection européenne qui va du coup mobiliser encore plus les Républicains pour s'affirmer contre le fait que Rachida Dati
et
l'Amérique. 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Oui, on vous donne la parole et on a Hamid qui est avec nous normalement de Paris 1. On a un souci technique, Hamid, il a un problème avec sa connexion. 01 53 48 3000, vous avez la parole. Vous pouvez la fibre. Vous pouvez nous appeler et évidemment passer en direct pour commenter avec nous. Rachida Dati, ça c'est pour le coup la surprise. Emmanuel Dupuy, là, on peut parler d'une surprise. Ça, mais personne l'attendait.
C'est un coup politique.
C'est une prise de guerre pour elle.
Alors pour elle.
Oui. Non, pour Macron.
Mais c'est une prise de guerre? Qu'est-ce que Rachida Dati amène? Rachida Dati.
Elle vise l'hôtel de ville.
Vas-y, termine.
Au profit de Rachida Dati. La prise de guerre du président Macron aurait été qu'il prenne quelqu'un qui est suffisamment légitime à droite pour que les gens de droite se disent qu'il y a un changement de cap. Rachida Dati ne va pas incarner machinalement, mécaniquement ou de manière magicienne. Un changement politique.
Il y a une unité à droite.
Ça veut rien dire. Le premier ministre, Adil,
c'est la vérité.
Mais je vous dis comment ça se passe je fais un petit peu partie d'une famille politique qui est associée chez les Républicains. C'est pas parce que vous dites sarkozyste que tout le parti est sarkozyste.
Oui, vous avez raison.
Depuis que
surtout que c'est depuis, un peu plus compliqué.
Et depuis la chute de Nicolas Sarkozy, allez dire aux Républicains qu'ils sont sarkozystes. Bien sûr que non.
Bah, ils ont viré tous les sarkozystes.
Ils ont viré tous les sarkozystes.
Les derniers candidats républicains aux présidentielles, c'était Valérie Pécresse. On se souvient de la prestation de Valérie Pécresse.
Mais ça, c'est autre chose. Non,
mais c'est autre chose.
Vous confondez tout.
Mais c'est pas parce que personnalité de droite.
C'est pas parce que vous avez été ministre de Sarkozy que vous êtes sarkozyste. Non. Le sarkozyste, c'est une idéologie. Il y a des responsables politiques, je termine en 30 secondes. Il y a des responsables politiques qui sont identifiés comme sarkozystes, mais ça ne veut pas dire que le parti est sarkozyste.
Et Rachida Dati alors ?
C'est une opération politicarde qui n'apportera pas grand chose, qui est en train de semer la zizanie. Le seul objectif de Rachida Dati, c'est d'être maire de Paris. Le seul objectif d'Emmanuel Macron, c'est de bloquer Hidalgo. C'est tout.
Et elle est en bonne voie, Rachida Dati.
Ce qu'on peut dire de plus là-dessus, c'est que déjà, moi, en tant que comme de droite, c'est quand même une déception parce que j'apprécie énormément Rachida.
Virer, franchement, ou pas
mais le problème, c'est qu'en ayant fait ce choix, ça paraît logique, de toute façon. Qu'elle savait elle-même qu'elle quitterait les Républicains en s'engageant avec Emmanuel Macron. Parce que quand on part avec Emmanuel Macron, on revient pas, en fait. Les gens de gauche, ils vont pas, les Clément Beaune, ils vont pas repartir à gauche. Ça n'existe pas.
Non, ils vont pas revenir au Parti Socialiste.
Voilà,
c'est
ce que je veux dire. Mais peut-être Territoire de Progrès. Et encore, à mon avis, ils sont sortis du champ et macronien et du Parti Socialiste. Donc, du coup, c'est un aller sans retour. Donc, faut vraiment être sûr de ce que l'on fait. Elle a ses motivations, je peux, a priori, peut-être, les comprendre, mais c'est quand même un tort manifeste à la droite. Maintenant, sur le concret, comme je l'ai dit, ça ne va rien apporter parce que tous ces transfuges en fait de la droite ne vont apporter en fait que de la confusion et du ressentiment. Par contre, ce qu'on peut dire en fait, c'est que Emmanuel Macron, je pense qu'il fait un très mauvais calcul en fait. Pourquoi ? Parce que si vous voulez vraiment montrer qu'il y a une politique de droite qui est enclenchée, mais c'est au niveau du Premier ministre qu'il fallait le faire. Ouais. Fallait nommer Rachida Dati Premier ministre. Là on se serait dit, on commence à entrer dans ce qui peut se rapprocher d'une cohabitation, ce que Emmanuel Macron a toujours voulu éviter, alors qu'au lendemain des élections législatives, on aurait pu aller vers ce gouvernement de coalition qu'il n'a pas voulu pour pouvoir garder en fait la main sur son agenda. Et c'est pour ça que les Républicains restent dans une opposition, allez, on va dire plus ou moins intelligente, et qu'ils ont damé le pion au gouvernement au travers de la loi immigration, et ils vont continuer avec la perspective des Européennes. Donc pour moi, c'est vraiment un mauvais calcul.
Moi, j'ai envie de vous dire deux choses. D'abord, et les Français dans tout ça. On n'est que dans le calcul, la magouille, la stratégie politique. Il ne faut pas oublier qu'il y a les Européennes qui arrivent derrière. Et l'objectif de Macron, c'est d'éviter la débandade totale aux Européennes. C'est ça, sa stratégie. Oui. Et surtout, d'éviter le big succès, l'explosion du RN.
L'enjeu, c'est les élections européennes.
Ça veut dire que les Français, en tout ça, on n'en a rien à foutre. Je suis désolé du terme. Ils en ont rien à faire, des Français.
Mais le succès du RN,
le succès de la 53-48, ils reviendront pas dessus.
La deuxième chose, est-ce que c'est une surprise que c'est Macron qui a désigné Rachida, c'est pas Attal, hein, comme beaucoup de ministres. C'est pas une surprise. Pour moi, c'est pas une surprise qu'il aille la chercher. En plus, je sais qu'il pense qu'il va peut-être récupérer l'électorat communautaire au travers de Rachida Dati, peu importe. Moi, je rejoins Rudy. S'il l'avait nommé Premier ministre, c'est un vrai changement.
C'est possible.
Elle est très populaire, mais s'il l'avait nommé Premier ministre, c'est un vrai changement. Il ne l'a pas nommé Premier ministre. Il lui donne un ministère, la culture, avec tout ce qu'on vit en ce moment. C'est pas la priorité des Français, faut être honnête. Je suis pas contre la culture. C'est pas dénué de valeur.
Elle est pas à sa place.
Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres sujets. Il n'avait pas au bon endroit. Après, moi, ce qui m'a interrogé, c'est pourquoi elle a accepté. Parce que moi, je me suis dit, mais elle se grille la mairie de Paris.
La mairie de Paris.
Mais elle se grille. Vous croyez que Renaissance va donner la tête de liste?
Moi, je crois que c'est au contraire.
À Rachida, la mairie de Paris.
On va en parler. On en parle.
Alors là, pause. N'oubliez pas. Comme elle l'a dit elle-même, ce ne sont que des traîtres.
Pause 01 53 48 3000 dans les informés des quartiers. On se retrouve dans une bonne minute.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Avec Karim Alouache, avec Rudy Kadi, le débat continue, y compris pendant la pause. Maître David Ibeskid avec Emmanuel Dupuis. Et enfin, attendez, je finis quand même tour de table. Dis donc, maître discipline ici. Merwan Mioubi. Alors, maître, qu'est-ce que vous voulez dire?
Concernant Rachida Dati, moi j'aurais deux observations.
Il manque.
oui, bien sûr.
Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est un très mauvais calcul.
Pourquoi ?
Parce que déjà, Rachida Dati n'est pas une leader de la droite. C'est une, elle est médiatique. Ah, non, non, elle n'est pas leader.
Elle est présidente du Conseil national.
Mais vous êtes
du
Conseil national. Maître David Libis, vous vous rendez compte ?
Ça ne veut rien dire.
Figure emblématique des Républicains.
Non, mais du Sarkozy. Après, je suis d'accord avec vous que parfois, elle se met un peu à l'écart.
Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît.
Laissez-le finir. Allez jusqu'au bout. Pourquoi ? Dites-nous tout.
Pour moi, ce n'est pas une leader de la droite.
Pourquoi ?
Premièrement. Mais parce qu'en fin de compte, c'est une sarkozyste à la base. Et comme le disait, je crois que c'est Emmanuel, je crois qu'il disait en fin de compte qu'aujourd'hui, la droite n'est plus sarkozyste. Donc ça, c'est un premier point. Et en plus, elle est clivante. Excusez-moi, moi je me rappelle de son passage au ministère de la Justice. Elle est capable de vous péter un gouvernement. Elle est tellement clivante. Mmh. Et en plus...
Bah, elle est flingueuse.
Non, c'est pas flingueux. C'est
bah, tu crois que le gouvernement n'était pas déjà pété.
C'est une flingueuse.
Non, non, mais laisse-moi finir.
Elle est connue pour ça.
Non, non, elle a été mise en examen pour corruption, hein, pour un montant de 900 000 euros, mais etc.
Elle n'est pas la seule dans le gouvernement.
Vous êtes avocat vous-même.
Oui, mais laissez-moi finir.
Ne la condamnez pas avant même qu'elle ait été jugée. Monsieur l'avocat, s'il vous plaît, maître.
Elle n'est pas la seule dans le gouvernement.
Est-ce que je l'ai condamnée ?
Vous avez laissé ensemble. Vous avez dit, elle est quand même.
Elle est mise en examen.
Il a dit qu'elle était mise en examen.
C'est une affaire. Elle est mise en examen pour corruption, oui. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, elle va comparaître. Il y a de fortes chances qu'elle comparaisse devant le tribunal correctionnel durant ce qui reste du mandat de Macron. Ça, c'est certain. Mmh. Donc, je ne pense que
c'est pas faux.
Je pense que c'est un très mauvais calcul. En revanche, pour elle, c'est un très bon calcul parce que comme elle aime bien parler à la télé, elle est clivante, elle aime bien cliver les gens, etc. Je ne pense pas qu'elle va s'en priver. Et deuxièmement, c'est un bon calcul pour la mairie de Paris. Pour en 2026 obtenir l'investiture de Renaissance. Alors, comme Emmanuel me le disait, la dernière municipale, elle a fait 48%. Hein, c'est ça. 48%.
Elle est arrivée au deuxième tour contre
Hidalgo.
Voilà, oui.
Voilà, elle est arrivée au deuxième tour. Donc, elle a eu l'électorat entre guillemets LR. Hein. Je pense que
l'électorat. Elle était candidate LR.
Non mais je suis d'accord. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, qu'en 2026, elle n'aura pas l'investiture de la droite, c'est certain. Mais si elle a l'investiture de Renaissance, en fin de compte, elle va pouvoir élargir peut-être son électorat. Donc, ça peut être un très très bon calcul pour aller. Puis ça lui permet de revenir devant la scène.
Moi, je crois pas.
Et de confronter aux médias comme elle.
Bon, alors Emmanuel, ensuite, il y a Merwan qui n'a pas parlé.
Pour relativiser le rôle de Rachida Dati au sein des Républicains. Rachida Dati ne préside pas la Fédération LR de Paris. C'est Agnès Evren. Qu'elle a voulu flinguer alors qu'Agnès Evren est devenue sénatrice. Donc, au sein de la Fédération de Paris, Rachida Dati n'est pas du tout majoritaire. C'est une illusion de penser que les Républicains sont encore sarkozistes. Ça fait à peu près deux mandats que c'est fini. On est passé à autre chose. La preuve, c'est Éric Ciotti qui est président.
Seulement, y compris le nouveau visage des Républicains, c'est plus le même.
Sauf que qu'est-ce qui a fonctionné à droite depuis Sarkozy ? Rien. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Absolument rien. Donc pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de personnalité. Il y avait tellement personne qu'ils ont mis Pécresse. Elle a fait quoi, Pécresse ? Elle s'est ridiculisée.
C'était une primaire. Et c'est une primaire ouverte. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les militants républicains, c'est tous les Français qui ont voté pour elle.
Pour ce qu'il en est de Rachida Dati, elle a quand même quelque chose pour elle, c'est qu'elle a une personnalité. Elle sort du lot. Elle est à des années-lumière d'un Gabriel Attal. Et pour son parcours personnel, arriver dans ce gouvernement, c'est une porte ouverte. Je pense que si elle a du succès et qu'au prochain remaniement, on cherche quelqu'un pour ce gouvernement, pour prendre la tête de ce gouvernement, potentiellement, ça peut être elle. Et en ça, c'est une bonne opération. Elle n'a pas l'aval des Républicains. Mais que représentent les Républicains ? Elle y va avec son audace.
65 députés.
Juste les députés qui manquent au gouvernement pour déployer son programme.
Sauf que sans leader, on voit que l'allégeance, elle va un petit peu dans tous les sens.
Ça ne fonctionne pas comme ça.
Oui, mais à un moment donné,
il faut créer un gouvernement.
Oui, mais à un moment, il faut créer une unité. Si on veut avoir un mouvement qui est fort, il faut une unité.
C'est le débauchant. Un à un, en fait, des éléments, en fait, des Républicains, qu'on va arriver à une cohésion. Au contraire, on ne fait que exacerber les tensions.
Je réponds.
Très court, faut faire très court.
La personnalité, on va pas la chercher dans le conflit. Aujourd'hui, ce dont les Républicains ont besoin, c'est de retrouver un nouveau cap. Et c'est pas en ayant des fuites des cerveaux comme ça qu'on va y arriver.
Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 avec Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron avec la gauche de Hollande ?
S'il vous plaît.
Karim Alouache.
Moi, je ne crois pas que Macron est allé chercher les LR au sens du parti. Il savait qu'en la prenant, elle dégageait tout de suite du LR. C'est pas les LR. C'est la personne qu'il est allé chercher.
Oui.
Pour aussi l'image communautaire. Parce que là, il est en train de préparer une campagne. Attention, pas le grand remplacement, le grand danger, le RN. C'est ça son truc. Et je suis certain qu'on verra au charbon, en haut de la barricade, Rachida Dati sur ce combat, très très clairement. C'est ça son idée. Derrière elle, quel est son intérêt
possible,
aujourd'hui
possible hypothèse.
Aujourd'hui, je ne le vois pas parce que je n'ai pas confiance. Et on l'a déjà vu.
Il est d'accord, maître David.
Les moyens. Non, pas les présidents, même à la mairie de Paris. On sait que, sait que Macron, il peut jouer pile et face et qu'il a quand même trahi le président qui l'a mis là où il était.
Allez,
donc on peut s'attendre à tout.
Et surtout que c'est un
j'espère que sur ce point-là, elle ne sera pas à voir.
19h45 et 46 précisément, je voudrais qu'on avance dans nos sujets et aborder la loi immigration. Parce que Laurent Fabius, il n'est pas content, lui. Il n'est pas content parce que c'est le patron, hein, c'est le boss du Conseil constitutionnel. Il reproche à l'exécutif de vouloir politiser tout simplement le Conseil constitutionnel. Alors, que cherche-t-il Emmanuel Dupuy en disant ça?
Il rappelle à quoi sert le Conseil constitutionnel.
Moi, je ne le vois pas comme ça.
Ah bon?
Oui.
Alors vous m'expliquerez pourquoi, parce que c'est assez limpide. Le Conseil constitutionnel...
Mais il a toujours été politisé, le Conseil constitutionnel.
Qui nomme le Conseil constitutionnel?
Toujours été politisé.
Alors, je vais
rappeler. C'est de la démagogie de faire ce type de déclaration.
Bien sûr que le Conseil constitutionnel est politisé, mais de faire jouer le Conseil constitutionnel un rôle qui n'est pas le sien, ça, c'est particulièrement inavouable.
Et on parle d'idéologie.
C'est très simple. La loi immigration était inconstitutionnelle, tout le monde le savait. Qu'est-ce qu'on a fait ? Pour éviter que le débat ne se prolonge à l'Assemblée nationale, on a envoyé la patate chauge au Conseil constitutionnel en disant...
Mais ça sert à quoi de faire ce type de déclaration ?
Eh bien c'est ça, c'est ce qu'il dit.
Il dénonce en fait.
Monsieur Adil Farkan, l'article 61 de la Constitution est simple.
On le connaît.
Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour remplacer l'Assemblée nationale.
Oui.
S'il y a
C'est son rôle.
Mais non, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de vérifier la constitutionnalité des lois.
C'est ce qu'on est d'accord.
Et si l'Assemblée envoie à dessein un texte, je rappelle quand même, parce qu'on a eu une réunion précisément sur cette question, le secrétaire général du Conseil constitutionnel a rappelé qu'il y a 45 articles inconstitutionnels dans cette loi.
C'est énorme.
Donc ça veut dire qu'on a exprès politisé le Conseil constitutionnel. C'est ce que Laurent Fabius dit, c'est tout. Bien sûr qu'on sait que, la présidence du Conseil constitutionnel est politique.
Il envoie un espèce de message.
Mais c'est pas ça le problème.
Ouais.
Vous déviez la critique. C'est pas
ça
le problème.
Aussi.
Le problème, c'est qu'on fait jouer au Conseil constitutionnel ce qu'aurait dû être fait à l'Assemblée nationale. C'est ça la politisation.
Karim Alouache, Maître David et Marwan Mehoubi.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Emmanuel, mais c'est dans la continuité de destruction des institutions. C'est comme le rapport de la Cour des comptes sur les moyens mis pour la lutte contre l'immigration. Et le rapport, il part à la poubelle. On en a rien à faire en fait.
Non, il a été déplacé.
Oui, enfin c'est pareil entre nous. Et en fait, c'est ça qui est
rendu de la conclusion. Non, c'est fait après la loi.
C'est terrible. C'est terrible ce qu'on est en train, ce à quoi nous sommes en train d'assister quoi. On est en train de dire Conseil constitutionnel. Et puis vas-y, tranche pour nous, fais de la politique, alors que c'est pas son rôle. La Cour des comptes, on te demande ton avis, mais de toute façon on s'en fout puisqu'on a déjà. Donc tu sers à rien. Mais c'est fou. On est en train de tout casser. Et moi, je trouve que pour la démocratie, c'est extrêmement dangereux. Et je le redis, et les Français dans tout ça.
Mais Rudy Kazin. Ça, c'est l'électeur local.
Ça devient insupportable.
De Bondy qui
est remonté là.
C'est l'acteur politique de Bondy là. Et ça
Adil, en plus de ça, c'est très hypocrite. Parce que rappelez-vous un petit peu comment ça s'est passé pour le projet de
Fabius.
Du point de vue du président de la République. Rappelez-vous comment ça s'était passé pour le projet de loi immigration. Emmanuel Macron mettait une pression monstre sur Elisabeth Borne, sur Gérald Darmanin,
c'est son rôle.
Sur Clément Beaune, me semble-t-il aussi, pour que
c'est son rôle.
Non mais j'y viens, pour que une entente puisse être trouvée de façon en fait à ce que l'exécutif ne donne pas l'impression en fait d'avoir perdu la main sur ce projet de loi qui était le sien au départ. Donc ensuite dire que de toute façon, et c'est le président qui l'a dit lui-même, il y a des inconstitutionnalités dans le texte, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, ce projet, c'était le vôtre. Comment est-ce que vous pouvez, en fait, dévoyer votre propre projet?
Alors, c'est comme ça que je le voyais, moi, en vous interpellant tout à l'heure.
Oui, en disant c'est que de toute façon, ce projet de loi, ça veut dire, en fait, qu'on n'est plus responsable.
Adressé au chef de l'État.
Mais ça veut dire, en fait,
c'est comme ça que je le lis.
C'est ça, ça veut dire, en fait, que. Ça veut dire, Laurent Fabius dit, en gros, que l'exécutif veut se défausser de l'improduction constitutionnelle de ce projet de loi et veut effectivement aussi se dédouaner des conséquences. Et il a raison de rappeler le rôle du Conseil constitutionnel qui n'est pas de faire la loi. Ça veut dire en fait qu'il y a aussi un procès en incapacité de travail. C'est quand même grave quand même. Des députés qui sont là pour faire un projet de loi constitutionnel en principe et qui est dévoyé par le fait qu'il y ait autant de textes qui ne
d'articles qui ne le soient pas. Et ensuite,
Moi, je suis juriste, donc je suis rigoureux.
Je veux pas être méchant, mais ça fait un peu incompétent.
Voilà. Donc en fait, Fabius, il a tort et raison à la fois. Il a raison parce que quand un chef d'État, il répond à Emmanuel Macron, chef d'État dit certaines dispositions de la loi immigration sont inconstitutionnelles et c'est le Conseil constitutionnel qui tranchera. Effectivement, bon, c'est un peu gênant. Autant rien dire, déférer la loi et puis après c'est le Conseil constitutionnel. Donc là-dessus, Laurent Fabius a raison. Là où il a tort, et c'est important de le dire, et Emmanuel l'a rappelé, l'article 61. Le Conseil constitutionnel, c'est quoi son rôle? C'est de contrôler la constitutionnalité des lois.
C'est la loi des lois.
Ce qui veut dire, en fin de compte, qu'il ne se met pas à la place du législateur. On lui défère la loi. Il examine les dispositions de la loi sont conformes à la Constitution et au bloc de constitutionnalité. Et point barre. Mais Fabius n'a pas à dire en fin de compte, c'est moi qui tranche la politique.
On arrive déjà au thème de cette émission. Vous avez vu, ça va vite.
Ce qu'on répète depuis tout à l'heure, en réalité, c'est que vis-à-vis de la loi des lois, la Constitution, tout le travail parlementaire n'a servi à rien. Donc on est en face en fait de deux mois d'enfumage où on nous a fait des grands débats où on a essayé d'avoir construire un texte
sur le plan
de loi.
Politique.
Oui, sur le plan politique. Mais non, mais on en a discuté, on en a débattu, c'était des heures. À quoi sert l'Assemblée? À quoi sert l'Assemblée? Et vis-à-vis des Français, quel message c'est? Quel message c'est de dire vos discussions parlementaires n'ont servi à rien?
Elle prépare la loi, un projet de loi,
mais bien sûr,
elle vote des dispositions de la loi qui sont
constitutionnelles. Pour qu'à la fin, le Conseil constitutionnel nous dise que ce travail-là n'est pas en accord déjà.
Le texte principal, c'est ça le problème.
D'ailleurs, c'est pas
lui. Tu as raison. 45 points, les députés le savent qu'elle est inconstitutionnelle, la loi.
Le principal problème, il est là. Les parlementaires savaient pertinemment qu'ils étaient en train de voter un texte inconstitutionnel. Et le problème, c'est qu'ils ont voté.
Mais c'est terrible.
C'est que des parlementaires votent sciemment un texte dont ils savent qu'il ne peut pas être appliqué.
Ça veut dire que
là, le jeu de passe-passe, il est brillant. Parce que, in fine, c'est les Républicains qui se sont fait avoir. Parce qu'ils ne pensaient pas que le texte allait être...
Ça dépend ce que va censurer le Conseil constitutionnel.
Oui, attention, la décision, c'est la semaine prochaine.
Oui, d'accord.
Attendons le rapport.
Vraisemblablement, quand le ministre de l'Intérieur dit, de toute façon, sur les 45, il y en a 12 ou 13 qui ne passeront pas, c'est précisément ceux que proposaient par la droite.
Et ben,
là, c'est quand même
du
transformisme politique.
À quoi sert l'Assemblée nationale ?
Merci Emmanuel Dupuis, président de la Députation. Merci à Merwan Mioubi, merci à Maître David Ibiski, merci à Rudy Kazi, enfin Karim Alouache, tout ce beau monde dans les affaires des quartiers. C'est faute de temps, on a pris beaucoup de temps à parler de Rachid Dati et de son remaniement, mais c'était une bonne chose. Et Gaza, on remet ça lundi, effectivement. Merci à ceux-là, la réalisation. Bilan Edman, donc pour le 20-21, ça s'appelle Time Sport. Confidence, Vanessa. Tout ce week-end, les programmes continuent sur BFM. À lundi, avec autant de plaisir.
La Coupe d'Afrique des Nations.
Qui commence
demain.
Exactement.
Demain. À lundi, avec
Équateur
Guinée. Et mais surtout, on ne lâche rien lundi 19h.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurrefM.